Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin, après la décision des nouvelles autorités sénégalaises de suspendre tous les chantiers le long du littoral, le temps d'examiner les dossiers, de s'assurer que les autorisations sont bien en règle. Il faut dire que ces dernières années, les constructions ont explosé au bord de l'océan, notamment à Dakar, une bétonisation effrénée qui n'est pas sans conséquence évidemment sur l'environnement et qui, selon le gouvernement, je cite, menace la paix sociale en raison de la recrudescence des litiges fonciers. Alors que vous inspire cette mesure? Jusqu'où ira le gouvernement? Ira-t-il jusqu'à détruire certaines constructions? En tout cas, rappelez-vous, il y a 4 ans, Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre, avait promis qu'en cas de victoire à la présidentielle, il raserait toutes les constructions illégales. Vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70 et je constate en regardant vos réactions WhatsApp, Facebook, que la problématique dépasse largement les frontières sénégalaises. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. Pour mieux comprendre l'actualité, nous allons commencer avec Alain, qui nous écoute à Accra, au Ghana. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue. Des questions sur la décision du gouvernement israélien d'interdire la diffusion d'Al Jazeera dans le pays.
Comment le gouvernement israélien justifie-t-il cette interdiction?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que depuis dimanche, le signal de cette chaîne est coupé en Israël. Bonjour Oriane Verdier.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, expliquez-nous pourquoi Al Jazeera est dans le viseur des autorités israéliennes.
Alors les explications officielles sont assez claires. La chaîne est qualifiée de terroriste par Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a affirmé que les correspondants d'Al Jazeera ont porté atteinte à la sécurité d'Israël. En fait, la fermeture de la chaîne est discutée depuis longtemps en Israël, depuis le début de la guerre. La chaîne qatarienne est accusée d'être le porte-voix du Hamas, trop complaisante avec les participants de l'attaque du 7 octobre. Et certains correspondants d'Al Jazeera sont même accusés d'avoir participé à ce massacre.
Et le gouvernement s'appuie sur une loi.
Oui, une loi surnommée la loi Al Jazeera, qui avait été votée le mois dernier, en avril. Sur le papier, elle ne mentionne pas la chaîne directement, mais elle permet d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l'État. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis plusieurs semaines et plusieurs mois.
Atteinte à la sécurité de l'État, en revanche, sur la scène internationale, cette justification a du mal à passer.
Oui, puisque Al Jazeera est reconnue comme la principale source d'information, avec un important au réseau de correspondants en Israël, mais aussi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Oui, d'ailleurs, il faut rappeler à nos auditeurs que les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'accéder à la bande de Gaza.
Exactement.
Hein, et Al Jazeera, finalement, est aujourd'hui le seul média à être présent sur place.
Avec un réseau de correspondants qui était déjà très présent avant le début du 7 octobre et qui est donc resté. Certains sont morts, malheureusement, depuis. Et pour Reporters sans frontières, par exemple, la raison réelle de cette interdiction est claire. Israël cherche à faire taire la chaîne pour sa couverture de la réalité sur le sort des Palestiniens. L'ONG de défense du droit de la presse dénonce un acharnement violent contre Al Jazeera. Les Nations Unies regrettent une décision faisant reculer la liberté de la presse. Et plusieurs pays, notamment les États-Unis, grand allié d'Israël, se sont opposés à cette décision. La direction de la chaîne étudie maintenant les voies de recours possibles pour contester en justice cette décision. Le matériel a donc été saisi et les bureaux fermés dans les territoires contrôlés par Israël. Mais la chaîne, pour l'instant, continue d'opérer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il faut le rappeler, depuis le 7 octobre, 97 journalistes ont été tués, dont 92 Palestiniens. Et je vous le disais, parmi eux, il y avait 2 journalistes d'Al Jazeera.
Alain, vous avez une autre question, je crois.
Oui, suite à cette interdiction, le Qatar va-t-il réévaluer son rôle de médiation dans la guerre entre l'Israël et le Hamas?
Ah, peut-il y avoir des conséquences diplomatiques, Oriane?
Alors c'est vrai que c'est une des premières questions qui s'est posée après cette annonce. Il est toujours très difficile de s'avancer sur des décisions diplomatiques de tel ou tel pays. Ce qui est sûr, c'est que cette chaîne, la fermeture de cette chaîne contribue peut-être à pousser le Qatar à réévaluer son implication dans les négociations en cours, puisque Doha a déjà fait connaître sa fatigue quant à la position complexe qu'il entretient, puisqu'il est parfois accusé d'être le porte-parole direct du Hamas. Mais de nombreux pays, dont les États-Unis et même une partie de la classe politique israélienne, valorisent la présence du Qatar dans cette équation. Il permet d'équilibrer le pouvoir de négociateur de l'Égypte et surtout de maintenir un contact permanent avec le Hamas, puisque si le Qatar en venait à expulser le bureau politique du Hamas qui est au Qatar, ce dernier devrait trouver un nouvel hôte potentiel et peut-être moins enclin à jouer un rôle d'intermédiaire diplomate.
En tout cas, pour l'instant, le Qatar continue de jouer son rôle de négociateur.
Oui, même actuellement, puisque des discussions sont toujours en cours au Caire. On l'avait annoncé, le Hamas a validé lundi un projet de trêve qui prévoit le retrait israélien du territoire, un échange d'otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël, avec pour but final un cessez-le-feu permanent. Ce texte est loin de répondre aux exigences israéliennes, selon le bureau de Benjamin Netanyahou, qui exige un retrait total du Hamas de la bande de Gaza. Malgré ce refus et malgré surtout le lancement de l'opération sur Rafah, une délégation israélienne est partie hier pour le Caire. Le Hamas a prévenu que ce texte était la dernière chance d'un accord et le Qatar, lui aussi, est donc présent actuellement au Caire pour continuer de jouer les négociateurs. Mais Doha a pris la parole aussi aujourd'hui et a appelé la communauté internationale à agir pour empêcher un génocide à Rafah. Je vous rappelle que cette ville est actuellement la première cible de l'armée israélienne et elle est le refuge de 1,4 million de Palestiniens.
Alain, à Accra, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, je suis très satisfait. Merci et bonne journée.
Et bonne journée dans la capitale ghanéenne. À très vite, Ariane Verdier, journaliste au service international de RFI. 10h17 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. Vous interrogez, vous souhaitez mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différentes éditions, nos différents journaux. Eh bien, appelez-nous, écrivez-nous et on se fait un plaisir de vous répondre tous les matins. On me dit qu'Albert n'est pas avec nous. Alors, je vais me faire le porte-parole d'Albert. Il nous écoute à Cotonou. On a un petit problème de réseau téléphone. Albert a entendu sur notre antenne, puisque c'est une information RFI, que le Bénin avait décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien. Et Albert voulait comprendre comment expliquer un tel imbroglio. Bonjour Alexis Bedu.
Bonjour Juan et bonjour Albert, s'il nous écoute.
Oh, je pense qu'il doit nous écouter, sinon il y a la séance de rattrapage évidemment avec l'application RFI Pure Radio. Alexis, vous êtes journaliste au service économie de RFI. Cette décision de bloquer l'exportation du pétrole nigérien par le Bénin a été prise lundi. Pour bien comprendre ce qui se joue, Alexis, il faut remonter au coup d'État de juillet dernier au Niger.
Oui, petit rappel historique, c'est un dossier source de tension depuis le coup d'État. Tous les États de la CEDEAO ferment leurs frontières avec le Niger. Le Bénin se conforme à la règle malgré le projet pétrolier en chantier depuis 2019 et avec un pipeline quasiment terminé au moment du coup d'État. Nouvelle étape en février dernier, sommet d'Abuja des pays de la CEDEAO. Levée d'une grande partie des sanctions, le Bénin décide tout de suite de rouvrir son côté de la frontière, mais pas le Niger. Et depuis, c'est la grande incompréhension. Le gouvernement béninois est très remonté. Une source béninoise proche du dossier nous expliquait hier que la junte a coupé le son. Il n'y a pas plus de dialogue formel entre les deux pays.
Et la goutte d'eau, Alexis, ça semble avoir été autour de l'inauguration de la plateforme pétrolière de Semekpoji, près de Cotonou. C'est là même où débouche le pipeline qui part du Niger, d'Agadem.
Oui, les autorités béninoises prennent très mal le fait que le pouvoir nigérien les contourne en fait sur cette inauguration. Alors de ce qu'on nous a dit côté Bénin, Niamey refuserait toute discussion passant uniquement par la compagnie chinoise qui exploite le pipeline, la CNPC. Cette inauguration devait se tenir autour du 15 mai. Elle est pour l'instant annulée, bien sûr. Mais ce qui a poussé Cotonou à réagir, c'est vraiment toujours cette frontière fermée. Le Bénin estime avoir fait des gestes, mais sans rien obtenir en retour. Donc le gouvernement de Patrice Talon joue son joker en coupant le robinet de pétrole nigérien.
Voilà. Albert, qui est à Cotonou, donc au Bénin, et qui est donc concerné finalement par cette décision, s'interroge sur les effets économiques pour les deux pays. On va peut-être commencer, Alexis Bedu, par les conséquences pour le Niger.
Sans la manne pétrolière, ça va être très difficile pour l'économie du pays. Une immense part de la stratégie pour renflouer les caisses repose sur ces retombées du pétrole. En prévision des ventes de brut, le partenaire chinois, donc la CNPC, s'est engagé, c'était le mois dernier, à verser une avance de 400 millions de dollars, une avance que le Niger devra rembourser. On n'a pas les détails de cet accord, mais il est peu probable que l'exploitant chinois n'ait pas mis des conditions. et sans pétrole, Niamey est bloqué. C'est donc un vrai coup de pression de Cotonou, pousser le Niger dans ses retranchements et pousser les Chinois aussi peut-être à faire pression sur le gouvernement nigérien.
Et les conséquences pour le Bénin ?
Alors le pétrole, c'est une petite manne pour le Bénin, 500 millions de dollars sur 20 ans au titre des droits de passage. Après, il y a quand même une interrogation, c'est comment va réagir la société chinoise qui a énormément investi en bloquant les navires. Cotonou accepte de se mettre en porte-à-faux avec les Chinois. Alors bon, ils comprennent très bien, c'est ce qu'on nous indique côté Bénin, mais bon, à voir dans les prochains développements tout de même. L'autre conséquence économique pour les deux pays, Juan, je termine juste là-dessus, c'est la fermeture de la frontière qui représente environ un millier de passages de camions par jour. Un problème pour le port de Cotonou, mais voilà, côté béninois, on relativise le poids économique.
Et si vous êtes justement au Bénin et que vous souhaitez réagir à cette fermeture de la frontière qui s'éternise, on en parle évidemment vendredi dans la Libre Antenne. Alexis Bédu, bonne journée. Albert, si vous nous écoutez, je vous souhaite également une belle journée à Cotonou, au Bénin. 33 9 693 693 70. Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Wam, bonjour aux milliers d'auditeurs de la radio du monde, sans oublier l'expert Adolphe Aguenonga.
Ah, Adolphe Aguenonga Chaubert qui va nous rejoindre dans un instant, c'est lui qui va répondre à vos questions. J'en profite évidemment Justin, puisque vous êtes avec nous, pour saluer tous ceux qui nous écoutent dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Et vous avez des questions sur votre pays, la RDC, on vous écoute.
Bien évidemment Monsieur Wam. La communauté internationale a vivement condamné les bombardements d'un cas de déplacés près de la ville de Goma. À cela, j'ai des questions, M. Wan.
Oui.
La première, pourquoi les États-Unis sont les seuls à accuser les Rwandais directement?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. Bonjour Adolphe Aguenonga Chaubert.
Bonjour Juan, bonjour Justin, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Spécialiste des mouvements armés dans l'Est de la RDC, vous êtes professeur à l'université de Kisangani. Effectivement, on a vu ces nombreuses condamnations en chaîne de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la SADC, de la MONUSCO, de l'UNICEF et des États-Unis. Expliquez-nous pourquoi les Américains sont les seuls à accuser directement le Rwanda d'être impliqué dans cette attaque.
Alors, je pense que Belgique aussi au Rwanda notamment, après cet incident, de retirer ses troupes de la RDC. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique sont les seuls à condamner clairement et vertement le Rwanda? Alors, ce qu'il faudrait souligner, c'est que le Rwanda est un partenaire, je pense, de beaucoup de pays, notamment en matière de maintien de la paix sur le continent africain. C'est ce qui pourrait bien entendu justifier la réserve de certains pays. Vous savez que le Rwanda a déployé des contingents, notamment au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RCA, et un autre contingent.
Ah, on a un petit problème de réseau téléphonique.
On aime l'avis que c'est le fait que le Rwanda soit le partenaire, le Rwanda soit perçu comme un partenaire en matière de paix sur le continent africain qui pourrait bien évidemment justifier cette réserve.
Et contrairement aux autres partenaires, pour reprendre votre expression, Adolphe Aguenonga Chaubert, les États-Unis affirment depuis bien longtemps que le M23, ces rebelles, sont soutenus par le Rwanda, contrairement à l'Union européenne et également à la France.
Oui, bien évidemment. Ce qu'il faudrait souligner ici, c'est le fait que les États-Unis d'Amérique ont non seulement condamné, je me rappelle qu'il y avait même un trait de sanctions envisagé contre les officiers du M23, voire de l'armée rwandaise accusés d'être impliqués dans cette crise. On s'attendait à ce que ce trait de sanctions fasse plier le Rwanda, mais de là, malheureusement, on a vu l'officier rwandais qui était placé sous sanctions, était plutôt monté en grade. Donc tout cela, on prouve en suffisance que les seules condamnations ne suffiraient pas pour dissuader le Rwanda.
Et je précise que le Rwanda a qualifié de ridicule et d'absurde l'accusation américaine. Merci infiniment Adolphe Aguelonga-Chaubert et on s'excuse pour les petits problèmes de réseau téléphonique. Vous étiez en direct de Kisangani où vous enseignez à l'université. Justin, bonne journée dans la province de l'Ituri. Il nous reste 5 minutes. Et si nous parlions maintenant du Togo, le Togo après la promulgation de la nouvelle constitution. Bonjour Désiré.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes sur place, à Lomé, dans la capitale, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Merci Juan. Le président de la République togolaise a promulgué la nouvelle constitution qui fait entrer le Togo dans la 5e République. Pour ça, j'ai deux questions, premièrement.
Oui.
Comment vont se répartir désormais les pouvoirs entre le président de la République et le président du Conseil ?
Ah, c'est une bonne question que vous posez. Visiblement, il y a eu un déficit de pédagogie, puisque vous êtes plusieurs à nous poser à peu près la même question. Bonjour Paul Amegakpo.
Bonjour Juan, bonjour aux éditeurs et auditrices de la RFI.
Vous êtes le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Depuis lundi, le Togo a donc basculé dans la 5e République avec effectivement un changement au niveau du président de la République et la création d'un nouveau poste, d'une nouvelle fonction, celle du président du Conseil des ministres, une sorte de super premier ministre. Comment vont travailler ces deux hommes, ces deux personnalité. Il faut déjà rappeler peut-être, Paul Amegakpo, pour être très pédagogue, c'est que le président de la République va perdre quasiment tous ses pouvoirs.
Exactement. Le président de la République va perdre toutes ses prérogatives qu'il avait sous la 4e République. Il faut préciser aussi, d'entame, que la nouvelle constitution promulguée n'est pas encore disponible au public depuis ce 6 mai. Et donc, les prérogatives sont réparties comment ? D'abord, le président de la République reste le chef de l'État et est garant de la continuité de l'État et l'unité nationale. Cependant, le président du Conseil des ministres définit et conduit la politique nationale. Le président de la République accrédite également les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires du Togo à l'étranger et reçoit également l'accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des pays étrangers auprès du Togo. Mmh. Cependant, c'est le président du Conseil des ministres qui définit et conduit la politique étrangère du pays.
Et il sera également le chef des armées.
Exactement. Il est le chef des armées et nomme aux fonctions militaires et civiles. Cependant, il y a certaines exceptions qui ont été faites pour le président de la République qui pourrait nommer les recteurs d'université, les directeurs des administrations centrales et les officiers généraux. Il est également ajouté la nomination des préfets. On n'a pas ajouté la nomination des gouverneurs, mais cette nomination certainement rentrerait dans le cadre des nominations civiles qui incombent désormais au président du Conseil des ministres.
Ce qu'on peut dire pour résumer en un mot, c'est que le président de la République aura désormais une fonction honorifique. Désiré, il nous reste une petite minute. Allez-y pour la dernière question.
Oui, merci bien. Quand est-ce que le président du Conseil des ministres prendra fonction ?
Alors, et autrement dit, quand est-ce que Fornia Simbé, puisque c'est à lui que reviendra cette fonction en vertu de la Constitution, quand est-ce qu'il deviendra président du Conseil des ministres ? Avez-vous une idée, Paul Amegakpo ?
Oui, disons que suivant les principes généraux du droit, le président de la République actuelle a un droit acquis par la Constitution de la 4e République à travers son élection en 2020. Et donc, il pourrait décider de rester en fonction jusqu'en 2025, c'est-à-dire à la fin de son mandat actuel avant que s'ouvre une nouvelle phase de renouvellement du mandat du président de la République.
D'accord.
Il pourrait également renoncer à ce pouvoir en démissionnant. Et donc, il a l'option de démissionner ou de poursuivre son mandat actuel acquis depuis 2025.
Eh bien, on suivra ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, ou peut-être qu'il faudra patienter jusqu'en 2025. Merci infiniment, Paul Amegakpo, d'avoir été en direct avec nous, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance.